A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 543 du podcast J'en Actuel Amaté. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. On entame le débrief de la 11e semaine NFL. On le continue plutôt puisqu'on a déjà parlé du match du jeudi dans le fauteuil. Lucas Vola est avec moi. Bonjour Lucas.
Salut Alain, salut tout le monde. Je retrouve le lundi, je suis ravi.
Tu reprends ta case, en effet. Il y a des cases à peu près... C'est vrai que tu es l'habituel du lundi et Victor est l'habituel du jeudi. Et
question d'emploi du temps.
Voilà, grosso modo, hein. on va pas se cacher. Bon, Lucas, j'espère que tu as passé un bon week-end. On va parler d'un match fou sur le résultat, en tout cas, puisque c'était pas ce qu'on attendait. On va parler des Giants qui sont en difficulté. En fait, deux équipes de la NFC qui ont un peu implosé cette semaine. Et puis d'un match fou entre les Chiefs et les Chargers. On va commencer avec les Vikings et les Cowboys. C'était notre affiche de la semaine, 40-3 pour les Cowboys. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Les Cowboys ont marqué sur leur 7 premières possessions, leur défense a saqué Kirk Cousins sur 6 de ses 23 premières tentatives. Je ne suis pas expert en maths, mais on est sur quoi? Sur du 3 x 6, 18, on est un peu moins d'un tiers. Mais bon, un peu moins d'un tiers de sac, c'est quand même énorme. Ils ont été impitoyables, on voulait un match référence pour Dallas. Lucas, est-ce qu'on le tient?
Ah oui, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je pensais que tu allais me demander ce qui avait été le plus impressionnant entre l'attaque et la défense. Et honnêtement, je suis ravi que tu me l'aies pas demandé parce que j'aurais eu du mal à répondre. Parce qu'en effet, tu l'as dit, c'est un match référence. Il sortait d'une défaite face aux Packers la semaine passée, forcément dans une rencontre qu'ils auraient dû gagner, qu'on les imaginait gagner. Là, ils étaient pas forcément favoris et ils sortent ce match-là, tu l'as dit. Référence des deux côtés du ballon, avec une grosse victoire, une victoire importante contre une grosse équipe. Ça va leur permettre de construire sur la suite, c'est très bien pour les Cowboys.
En attaque, on va commencer peut-être par ça. On parlait de Dak Prescott pour le match référence dans la preview de la semaine. Alors, il est là, hein, 22 sur 25, 276 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Mais est-ce que l'homme du match, c'est pas encore plus Tony Pollard, qui est à 80 yards au sol et qui est aussi présent avec 6 réceptions, 109 yards et 2 touchdowns dans les airs? Il a été impressionnant. J'ai l'impression que c'est quand même lui qui donne une nouvelle dimension à cette attaque.
Oui, clairement, l'homme de l'attaque des Cowboys sur ce match-là, du moins, c'est clairement Pollard. Alors oui, Prescott a été bon, CD Lamb aussi, mais c'est lui qui fait un peu tout. Tu l'as dit, au sol, à la passe, il inscrit plusieurs touchdowns. Et en effet, il donne une dimension supplémentaire parce que, oui, il y a toujours Ezekiel Elliott, qui est plutôt bon, à qui on a donné un touchdown d'ailleurs, ou deux même presque gratuitement, un petit peu. Alors, gratuitement, c'est toujours facile, mais c'est vraiment Pollard qui a fait le travail, je l'ai dit, voilà, dans les deux secteurs de jeu, et il est impressionnant, franchement, il est même sous-coté ce joueur-là, parce que on a du mal à le sortir quand on sort les meilleurs joueurs au poste de running back, parce que peut-être il y a Elliott, parce que peut-être c'est une équipe avec beaucoup de stars, mais c'est vrai que quand on va faire le compte à la fin de la saison sur les 5-10 meilleurs running back de la ligue, il va pas être loin.
Clairement, clairement, c'est vraiment il change le jeu, il change le match, et il permet en plus à Dak Prescott, j'ai donné ses stats, mais d'être dans un rôle de manager plus-plus, en fait, de game manager plus-plus, dans lequel il est parfait, quoi.
Oui, et puis surtout très propre. C'est un game manager, oui, c'est vrai, il fait que 276 yards, tu l'as dit, mais il est très propre, il fait pas d'erreur, il lance des touchdowns, en tout cas des passes au bon moment. Quand il joue comme ça, Dak Prescott, c'est très solide. Vous le disiez, vous cherchiez un match référence. Je sais pas si c'est le match référence où il explose tout comme il a pu avoir l'habitude de le faire, notamment avant sa blessure. Mais en tout cas, s'il fait ça sur tous les matchs, Dallas va pas être très loin sur tous les matchs parce qu'il y a cette attaque, il y a cette défense et il y a des joueurs offensifs autour de lui. Mais il a fait les passes quand il fallait. J'ai cette passe notamment sur CeeDee Lamb en fin de match, en fin de première mi-temps, qui est magnifique. Donc ouais, Dak Prescott très très propre, très très bon.
On parle de la défense à présent, qui était forcément menée par un grand Micah Parsons. Gros rebond dans ce match, 2 sacs, 4 plaquages, un fumble forcé, 5 quarterback hits. Un peu étrange de le voir revenir en jeu en fin de match après une petite alerte au genou, parce qu'il menait quand même très 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 largement. Mais bon, ça veut dire qu'il va bien. Du côté de la défense, donc de Dallas, Lucas, c'est moins une surprise, alors c'est pas que ce soit une surprise pour l'attaque, mais c'est moins une surprise, on va dire qu'ils confirment, quoi. Ils se relèvent bien après leur match précédent où ça avait été moins impressionnant.
Oui, c'est ça, c'est moins une surprise dans un sens, et dans un autre sens, c'est un retour à la norme, entre guillemets, parce qu'il y a eu des matchs où on a eu un petit peu plus de questions par rapport au début de saison, où ils étaient très forts. Là, ils reviennent sur leur début de saison notamment, où ils ont tenu la baraque, notamment quand il y avait Cooper Rush. Là, ils sont vraiment très bons, tu l'as dit, Micah Parsons en figure de proue de cette défense-là. Quand il joue à ce niveau-là, c'est un petit peu facile de jouer autour de lui, il est incroyable, et puis il y a toute cette défense-là, tous les autres joueurs ont été bons, la ligne a été très très bonne. La pression qui a été mise sur Kirk Cousins a été incroyable. Tu as donné le nombre de sacs et le pourcentage qui va avec. Et forcément, du coup, ça complique les choses quand on joue contre une défense comme celle-ci. Surtout quand l'écart commence à s'agrandir et qu'on est obligé de passer de plus en plus. Et c'est vrai que cette défense-là, quand elle joue à ce niveau-là aussi, ça fait que c'est une équipe qui peut être dangereuse, très dangereuse.
Jerry Jones a déjà dit qu'il croit que c'est le genre d'équipe avec laquelle on va gagner un Super Bowl. Hein. Il est chaud, Jerry.
En même temps, alors c'est du Jerry Jones, donc forcément on rigole, on sourit, puis quand on réfléchit 2 minutes, on se dit que pourquoi pas.
Ah bah, il y a, sur le papier, oui, sur le papier.
Et puis il y a un Mike McCarthy qui est agressif, ce qu'on n'a pas forcément vu. La semaine dernière, on se posait la question ensemble si sa quatrième tentative était logique ou pas, mais on avait salué au moins cette agressivité. Ça continue, notamment en fin de première mi-temps. S'il continue comme ça et que ça paye, c'est ça aussi, ça peut leur permettre d'aller loin.
Oui, et puis c'est une équipe qui marche bien, on l'a vu, même sans Dak Prescott, donc c'est quand même souvent la preuve que tu as une équipe complète et solide, quoi, quand tu marches sans ton quarterback titulaire. Ça me rappelle un peu les Saints, époque Sean Payton, Drew Brees, où des fois il y avait une petite absence et ils arrivaient à enchaîner avec Teddy Bridgewater ou quelque chose comme ça. Bon, ça montre qu'en général, c'est que tu as un effectif complet et bien tenu. Donc c'est pas évidemment, de toute façon, Jerry Jones dit ça le lendemain d'un 40-3, il va pas dire ça après la défaite de la semaine dernière. Mais c'est pas délirant. Après, c'est Dallas et on sait qu'ils ont eu du mal à conclure ces dernières années, même avec des bonnes équipes. Donc ça, ce sera une discussion pour le mois de janvier, j'ai envie de dire.
Surtout que c'est un match qu'on peut très bien avoir en playoff dans quelques mois. C'est une potentielle affiche de playoff.
Clairement. Du côté des Vikings, on a parfois parlé de leur irrégularité. Là, ils ont été réguliers, mais pas dans le positif. Fumble sur la première série offensive, 2 drops de TJ Hockenson dans la end zone sur la deuxième série offensive. Ils s'en sont jamais remis. Derrière, il y a 7 punts. Le plus gros échec est pour qui ? Pour la protection de passe, ils prennent 7 sacks quand même.
Très clairement, je pense que tout le monde n'a pas fait un grand match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais si on doit ressortir peut-être des coupables entre guillemets, ce serait cette protection de passe. Et la protection de passe, elle inclut la ligne offensive, mais elle inclut aussi Kirk Cousins, on va dire, parce que il y a des sacs qui sont pour lui. Pour moi, ce fumble dont tu parlais de Micah Parsons, je crois en tout début de match, il est un petit peu pour lui aussi. Il peut faire autrement. Donc il n'y a pas que la ligne offensive, mais c'est en effet cette protection de passe et cette pression qui a été mise qui les a mis vraiment en difficulté à partir du moment où ils sont derrière. Il n'y a rien qui allait pour eux, tu l'as dit, Hockenson qui drop 2 ballons, il n'y a vraiment rien qui va, et du coup on creuse le trou. Disons que on préfère avoir un match comme ça, je pense, du côté des Vikings, où rien ne va et après repartir de plus belle, plutôt que plusieurs matchs où c'est un petit peu moyen. Autant passer à travers complètement, on passe à autre chose, on oublie semaine 12 maintenant, plutôt que d'avoir, maintenant il faut se relever. Par contre,
c'est de loin la plus petite fiche statistique de Kirk Cousins, hein. Du coup, plus faible taux de passe complété, aucun touchdown de lancé, ça lui était pas arrivé dans un seul match cette année. 105 yards, c'est son plus petit total de yards et de loin. Donc, tu l'as dit, tout est passé au travers et en défense, parce qu'en fait, tout est passé au travers pour tout le monde. C'est-à-dire que leur défense, elle vivait pas mal sur les turnovers et ils n'en provoquent pas un seul sur ce match-là. Ils sont top 4 normalement pour les ballons volés. Donc, quand tu as ton attaque qui ne performe pas et que tu perds des ballons et qu'en plus, ta défense fait pas ce qui... Parce qu'on la connaît un peu, cette défense maintenant des Vikings, elle va te donner des yards, mais elle prend des ballons. S'ils prennent pas des ballons, ils sont condamnés quasiment.
C'est ça, ils prennent des yards et puis ils ont, mine de rien, moins l'habitude d'être mis sous pression de la sorte. Parce que tu l'as dit, il y a eu beaucoup de punts, il y a eu pas mal de three and out, il y a eu pas mal de ballons relancés. Je sais pas ce qu'a été le temps de possession, mais je suppose que Dallas a été devant Minnesota. Et du coup, forcément, la défense, ce qui veut dire que la défense est plus souvent sur le terrain, donc plus à même à craquer. Comme tu l'as dit, si elle provoque pas de perte de balles, ça devient plus compliqué. On l'a vu, ils ont craqué sur des jeux, des fois parfois relativement simples, notamment ce touchdown sur Tony Pollard. C'est très bien coaché, mais on le voit que c'est des erreurs. Ce sont des erreurs qui n'ont pas particulièrement été faites depuis le début de la saison, mais sur ce match-là, elles ont été faites et ça a payé cash.
37 minutes de possession pour Dallas. Les Vikings ont un différentiel de points de moins 2 sur la saison maintenant et ils sont à 8 victoires et 2 défaites. Alors évidemment, forcément, là, ils prennent moins 37 d'un coup, mais ça prouve quand même que c'est une équipe qui reste étrange, qui reste peut-être un petit peu fragile par moment. Est-ce que c'est un incident de parcours ou alors est-ce qu'au final on n'a pas appris grand-chose et qu'on se dit ils peuvent taper n'importe qui sur une soirée mais ils peuvent aussi passer au travers complètement comme ils l'ont fait là quoi.
Je pensais pas qu'ils étaient capables de passer à ce point-là au travers. Je pensais que même s'ils pouvaient se faire taper quasiment par n'importe qui ou pas loin, et que là ils perdent en plus contre une équipe de Dallas qu'on a dit qui est solide, je pensais que ce serait un match en tout cas. Il y aurait, là ils passent vraiment au travers. Et c'est vrai que ce différentiel de points à 8-2, il fait sourire. Ceci étant dit, comme je le disais, je préfère perdre deux matchs de 37 points et en gagner 8 autres de 2 points que de perdre 8 matchs de 2 points. Voilà, je voulais sortir les calculatrices, mais en tout cas, est-ce qu'on va apprendre grand chose de ce match-là? J'ai envie de dire que c'est la semaine prochaine qui va nous donner plus de leçons sur les Vikings. Je crois que c'est les Patriots la semaine prochaine. Je crois même que c'est jeudi. Je vais pas dire de bêtises.
Oui,
mais
c'est à Thanksgiving, ouais.
Pour moi, c'est là qu'on va apprendre un peu plus sur les Vikings. Est-ce qu'ils vont se relever de suite ou on oublie, comme je l'ai dit, et c'était un match sans, ça arrive en NFL, et on le sait, c'est très compliqué d'être très régulier toutes les semaines, ou est-ce qu'au contraire, on a pris un petit coup sur la tête, on est embêté par des Patriots, vous en parlerez demain, qui sont pas forcément incroyables, mais qui peuvent embêter des équipes dans des matchs un peu sales. Donc voilà, j'ai envie de dire que les leçons vraiment des Vikings, à la lumière de ça sera, on les tirera peut-être à la lumière du match de la semaine prochaine.
On peut perdre de 37 points une fois, mais on peut pas perdre une fois, non, 37 fois de 1 point, tu sais, c'est comme dans la cité de la
Exactement,
peur.
On peut, non, attends, bon, voilà.
Bon, les Vikings en tout cas à 8-2, les Cowboys à 7-3, deux équipes qui en effet pourraient se retrouver en playoff et ce sera très intéressant. Dans la NFC, toujours des équipes, enfin une équipe de haut tableau et qui pour le coup a été calmée aussi, ce sont les Giants qui perdent contre les Lions, 18 pour les Giants, 31 pour les Lions. Est-ce qu'il s'est passé, Lucas, exactement ce qu'on attendait pour le coup dans le scénario où les Giants perdaient? C'était ils prennent du retard, ils peuvent plus courir, Daniel Jones doit lancer et on se rend compte que c'est Daniel Jones et c'est toujours Daniel Jones. Et tu perds.
Oui, globalement, là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand-chose, dans le sens où je pense même qu'on l'avait dit la semaine dernière, cette équipe-là, elle va rarement se faire éclater, et d'ailleurs, l'écart au score est un petit peu trompeur, parce qu'il y a un peu moins d'écart dans ce match-là, mais elle peut perdre contre quasiment n'importe qui. Les Lions, certes, restaient sur deux victoires consécutives, mais tout de même, c'était une des plus mauvaises équipes de la Ligue, on s'attendait pas à ce qu'ils perdent, et pourtant, ils perdent, parce que, tu l'as dit, c'est assez unidimensionnel, et quand on réussit, c'est pas forcément facile, mais à bloquer Saquon Barkley notamment, on met la pression sur un quarterback qui a pas forcément l'habitude de la gérer, qui a pas forcément la qualité pour la gérer, et du coup ça devient compliqué. Cette équipe là elle a eu du mal avec Daniel Jones, mais voilà, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, on le savait, c'est pas vraiment surprenant.
Je sais pas si tu peux tromper une fois 1000 personnes ou tout ça, mais je sais que tu peux pas gagner un match de football américain avec Daniel Jones qui lance 44 fois.
C'est
sûr. Je pense que c'est aussi simple que ça. Après, au moins, c'est bien, c'est un rappel. Ça leur rappelle que c'est pas un bon quarterback et qu'ils vivent avec lui et qu'ils gagnent un peu malgré lui, mais qu'il faudra changer. C'est bien de s'en rappeler de temps en temps parce qu'il fallait pas s'emballer à. Là, tu vois, ils auraient été à 8-2 vers les playoffs, machin. Il faut des rappels comme ça de temps en temps. Je pense qu'on leur rappellera en playoff à un moment ou un autre, d'ailleurs. Après, donc, Détroit s'est détaché avec un touchdown avant et un touchdown après la pause. Ça faisait 24-6 pour eux. Derrière, justement, Jones lance sa deuxième interception. Je pense que c'est assez symbolique, justement. Il n'y a plus de match. Et le plus inquiétant, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément Jones pour moi, c'est que tout ce qui marchait autour de lui commence à plus marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a que 22 yards en 15 courses pour Saquon Barkley, alors que Détroit est quand même une équipe de fond de tableau contre la course. Et puis la défense prend 160 yards au sol. Donc, et ils ne sacquent pas une seule fois Jared Goff, alors qu'ils ont blitzé 16 fois. Donc en fait, évidemment qu'ils allaient perdre. Parce qu'on parle de Jones, mais justement, Jones, on sait ce qu'on a. Si la défense, qui est censée être leur force, et les garder dans les matchs, n'est pas là, bah, ils sont en danger.
Oui, clairement, comme tu l'as dit, Jones, on sait qu'il n'est pas forcément bon. Je vais pas aller jusqu'à mauvais, mais qu'il n'est pas forcément bon. Donc, il n'y a pas de surprise, et ils ont gagné des matchs sans un Daniel Jones bon. Donc, c'est bien qu'ils sont capables de le faire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné derrière ? Les Giants, on le dit depuis le début de la saison, ils arrivent à imposer un défi physique et mental, un petit peu des preuves de caractère à leurs adversaires, ce qui leur permet de gagner et d'avoir la pièce qui tombe du bon côté quand il faut. Là, pour le coup, je les ai trouvés, ils ont été dominés dans ce secteur-là, hein, on va dire. Alors, c'est symbolisé par les lignes. On a souvent tendance à dire que le physique, c'est sur les lignes. Tu l'as dit, la ligne offensive a du mal à ouvrir des brèches pour Saquon Barkley. Et puis, la ligne défensive, pareil, a pris beaucoup de yards à la course, même s'il n'y a pas que la ligne défensive qui est incriminée sur ça. Mais voilà, c'est le symbole d'une équipe qui a été dominée physiquement, qui a été les Lions ont réussi à imposer ce que les Giants font d'habitude, on va dire. Et pour le coup, Dan Campbell a réussi et a gagné aussi son match-up un petit peu à distance avec Brian Daboll. C'est surprenant, mais c'est la réalité.
Autant on savait ce qu'ils peuvent faire en attaque, autant en défense, il y a une belle confirmation quand même qu'il y a Aiden Hutchinson pour les Lions. Il commence à faire très mal, une interception, un fumble recouvert. Il fait partie des axes d'espoir. On sait que les Lions, c'est une équipe qui est pour l'instant un peu, on va dire, par à coup. Ils font leur petit bon match de temps en temps. Et on le disait, il y a ce potentiel en attaque, il y a Amon-Ra St. Brown, il y a les coureurs qui sont là. Mais Aiden Hutchinson, il commence aussi à apporter une manière de finir les matchs.
Ouais, exactement. Forcément, on attendait énormément de lui dès le début de la saison. Et parfois, on le sait, les joueurs, ils prennent un petit peu plus de temps à être performants. Alors, on sait que des postes de pass rusher, c'est un peu plus facile, entre guillemets, où on a plus tendance à performer rapidement. On parlait de Micah Parsons. Il a été bon dès le début. Mais il y a certains joueurs qui ont besoin un petit peu plus de temps. Et Hutchinson, tu l'as dit, il a pris ce temps-là et il est de mieux en mieux. Et il commence à assumer ce statut-là. Et puis surtout, du côté des Lions, tout ce qui se passait bien depuis le début de la saison se traduit désormais en victoire. Ça fait, je crois, 3 victoires consécutives. Donc, ça se traduit en victoire. Et ça, c'est pas anodin pour une équipe qui est en recherche de repères. Oui, on le disait souvent, ce sont des défaites encourageantes. Il y a du caractère. Dan Campbell a réussi à mettre un état d'esprit dans cette équipe-là. Mais depuis la saison dernière, ça se traduisait pas en victoire. La preuve, ils avaient jamais gagné à l'extérieur jusqu'au dernier match. Et ils sont à 2 victoires à l'extérieur, 3 victoires consécutives. Donc, c'est bien pour cette équipe-là qui n'est plus vraiment à son année 0 de construction. On va dire, elle est à 0,5 et à 0,5, il faut qu'on commence à gagner des matchs.
Ouais, c'est vrai que ça fait 3 victoires de suite, hein, mine de rien, pour les Lions, qui vont jouer à Thanksgiving aussi. Hein. C'est encore une équipe qui jouera jeudi, mais ce sera contre les Bills, donc de temps un poil plus compliqué. Mais ils pourraient rendre le match intéressant, ils peuvent rendre tous les matchs intéressants. Est-ce que c'est inquiétant pour New York, quand même, cette défaite ? Leur autre embûche, et ça, évidemment, c'est indépendant de leur volonté, mais Wandell Robinson, leur receveur rookie, qui a 9 réceptions et 100 yards dans ce match, malheureusement, se fait les croiser. Donc, c'était un des rares soutiens, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas un groupe de receveurs incroyable, c'était un des rares soutiens pour Daniel Jones. Il est perdu aussi. Est-ce qu'on peut avoir une mauvaise tendance ? Ils sont quand même sur 2 défaites sur leurs 3 derniers matchs, hein, les Giants.
Oui, et puis surtout, ça va être véritablement décisif pour la suite de leur saison, parce que je regarde le calendrier là, il y a le déplacement à Dallas, réception des Commanders, réception des Eagles et déplacement chez les Commanders. Ils vont jouer 4 matchs dans leur division. On sait que c'est une division qui a prouvé qui était relativement relevée. Ça va être des matchs pas faciles du tout. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas les gagner, hein, parce que ils peuvent battre quasiment n'importe qui, on l'a dit, mais je pense que ça va être très décisif. Inquiétant, non, parce qu'on savait que cette équipe-là elle était capable de contre-performance, entre guillemets, sur ça. Mais là, véritablement, on a un mois qui va vraiment nous donner beaucoup d'indications sur ce qu'ils peuvent ambitionner sur la suite.
En tout cas, ça va vraiment faire le tri dans cette division qui est très relevée, hein, la NFCS, tout où il y a beaucoup de bons bilans. Tout le monde est en positif encore, si je ne dis pas de bêtises.
Les Commanders sont passés en positif, donc tout le monde est désormais en positif, en effet.
Tout le monde est en positif. Donc ça va faire le tri parce qu'ils vont tous se rencontrer là, dans les semaines à venir. En effet, les 4 prochains matchs, c'est de la division pour pour les Giants. Et il y aura encore les Eagles en dernière semaine. Donc, il leur reste 5 matchs de division. On termine avec justement un match de division entre les Chargers et les Chiefs. Victoire 30 à 27 de Kansas City avec la magie Patrick Mahomes qui a encore opéré. Les Chiefs qui étaient menés 27-23 avec 1 minute 46 à jouer. Ballon pour Mahomes et son attaque. 75 yards en 1 minute 15. Touchdown de Travis Kelce. Derrière, la défense intercepte Justin Herbert. Victoire de Kansas City. Encore une incroyable prestation de Mahomes, Lucas. Les Chiefs sont à 4 victoires et 0 défaites cette année quand ils sont menés à la mi-temps. Est-ce que Patrick Mahomes est en train de redevenir le favori pour le titre de MVP ?
Oui, j'allais dire, cette statistique, elle est intéressante de la prendre depuis que Patrick Mahomes est arrivé. On le sait, même quand ils gagnent le Super Bowl, ils sont quasiment menés à chaque fois à la mi-temps, ou en tout cas.
Tu l'as ou tu la veux, la statistique ?
Je
l'avais, c'était mon prochain argument. Depuis qu'il est arrivé à Kansas City, depuis le début de sa carrière, Mahomes, c'est 13 victoires pour 7 défaites quand ils sont menés à la mi-temps. Dis-toi qu'aucun quarterback n'est à plus de 50% dans cette situation. Pas Brady, pas Manning, personne.
Voilà, demandez une statistique, vous l'avez, magnifique. Merci beaucoup. Et en effet, ça met en lumière ça. On le sait, quand ils sont menés, rien n'est fait, sauf s'ils sont menés de 20 points. Et encore, on a ce match contre les Texans, notamment en playoff, qui nous revient. Mais c'est vrai que là, Mahomes, il est incroyable. Il revient, comme tu l'as dit, dans la course au MVP très clairement, voire même, il commence à mettre une petite longueur d'avance à tout le monde parce que là, il est incroyable. Je me suis pris à croire que les Chargers pouvaient gagner ce match au moment où ils mettent ce touchdown à moins de 2 minutes de la fin, et puis au bout de 2 actions je me suis dit mais en fait pourquoi j'ai pensé ça, c'est complètement stupide, et pourtant c'était que les deux premiers snaps, mais on l'a vu, on le savait, il est incroyable tout simplement. Travis Kelce l'est tout autant, il est injouable. Voilà, c'était mon titre ce matin. Travis Kelce et Patrick Mahomes sont injouables, mais vraiment je le pense, parce que quand on voit qu'ils sont capables de faire quasiment ce qu'ils veulent dans un délai quasiment comme ils le souhaitent, avec un rythme comme ils le souhaitent, et pourtant les Chargers font un bon match, ils finissent par gagner ce match là c'est y a rien à dire, il y a juste à apprécier, c'était un très bon match et une très belle performance.
Mahomes, c'est 329 yards, 3 touchdowns, aucune interception à la passe, et les 3 touchdowns, tu l'as dit, ils tombent dans les mains de Travis Kelce. 6 réceptions, 115 yards, 3 touchdowns, c'est un peu devenu leur receveur numéro 1 de fait maintenant, en l'absence maintenant de Tyreek Hill qui est parti. Ceci étant dit, Isaiah Pacheco fait office de nouveauté fraîcheur de la semaine, puisque Clyde Edwards-Helaire s'est blessé et que le rookie là, prend vraiment le pouvoir. 107 yards au sol en seulement 15 courses, il a quand même apporté une petite chose en l'absence, en plus de Juju Smith-Schuster, de Mecole Hardman, de Kadarius Toney qui s'est blessé, il leur fallait peut-être aussi un petit peu d'air au sol.
Oui, je reviens juste sur le. Je sais que c'est un élément de langage, mais les touchdowns qui tombent sur Travis Kelce. Travis Kelce, il se les a fait. Il y en a 2-3 qui se les fait aussi, mais c'était juste pour le sourire.
Oui,
mais
il va les chercher.
Ouais. Il va les chercher. Il est incroyable comme joueur, mais en effet, il y avait du monde qui était blessé autour. Tu l'as dit, des absents pendant le match là, et il fallait sortir un petit peu ce jeu au sol là. Surtout qu'on sait, c'est dans ce secteur là que les Chargers sont parfois mis en défaut, et donc du coup Kansas City avait décidé de l'utiliser un petit peu, surtout que les Chargers ont mis pas mal de pression sur Mahomes en début de match, alors ça s'est pas trop traduit par des pertes de balles notamment, mais il a été mis sous pression, et donc du coup il fallait se tourner un peu vers le jeu au sol. Clyde Edwards-Helaire, et avec très peu touché le ballon la semaine dernière, il a touché un peu plus, mais il se blesse aussi pendant le match, donc comme tu l'as dit, il fallait se tourner vers Pacheco qui est bon, qui fait le travail. On le sait, les Chiefs n'ont pas besoin d'un Derrick Henry ou d'un Jonathan Taylor, ils ont besoin d'un joueur sur qui ils peuvent compter dans des situations un petit peu particulières ou des situations bien données, et il semblerait que Pacheco soit ce joueur-là, du moins pour cette saison.
C'est la troisième fois en 3 ans que les Chargers mènent en fin de match contre les Chiefs et qu'ils n'arrivent pas à finir. Qu'est-ce qui leur manque ?
C'est terrible, parce que les Chargers, ils font toujours des grands matchs contre les Chiefs, et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que on se dit c'est cette équipe-là des Chargers qu'on attend à chaque semaine, et s'ils jouent ces matchs-là contre quasiment n'importe quelle autre équipe que les Chiefs, ils sont pas loin de gagner à chaque fois, voire même de gagner tous les matchs. Sauf qu'à chaque fois ils font contre les Chiefs, et à chaque fois ils tombent contre meilleurs qu'eux, tout simplement. Je pense que Justin Herbert est très bon, mais Patrick Mahomes est meilleur. Je pense que le corps de receveur est bon du côté des Chargers, mais Travis Kelce est meilleur que n'importe quel autre receveur. Du coup, voilà, je pense que quand les match-up, les duels, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient directs, sont pas en faveur des Chargers. Ils font tout comme ils peuvent, mais après, la moindre erreur est fatale. On peut penser notamment ce drive en fin de première mi-temps où les Chargers font un field goal plutôt qu'un touchdown où ils auraient pu passer devant et prendre un peu plus d'avance. Et ils se contentent entre guillemets d'un field goal. En temps normal, c'est bien joué, mais contre les Chiefs, c'est pas assez. Et on l'a vu, il manque quelques points à la fin du match et ils sont peut-être là.
Après, il leur manque peut-être un peu de dimension physique, je trouve, quand même, dans les tranchées. Tu vois, ils prennent justement des courses de Pacheco. Eux, ils tuent pas le match, peut-être, avec un peu plus de gestion du chrono et de jeu au sol. Quand ils mènent 20-13 à la pause, ils reviennent des vestiaires, ça fait punt, fumble. Tu vois, là où tu devrais... Alors évidemment, c'est toujours la même chose, il faut faire un match parfait contre les Chiefs, c'est-à-dire qu'il faut bouffer le chrono, il faut... Voilà. Mais j'ai l'impression que ça, ils peuvent pas vraiment le faire. Donc si tu rends des munitions aux Chiefs, eux, à chaque fois, ils se mettent dans une situation où ils peuvent se faire punir, et je pense que c'est un peu ça leur vice encore, pour l'instant, à ces Chargers.
Oui, non, mais c'est clairement ça. Et puis il provoque un fumble alors que tout semblait être terminé pour eux et ils arrivent à provoquer ce fumble là pour rester dans le match. Et puis ils marquent ce touchdown là en toute fin de match. On l'a dit, à moins de 2 minutes. Mais il manque en effet cette petite chose là. Il manque peut-être un peu plus d'expérience aussi dans ces matchs là où Patrick Mahomes y a été des dizaines de fois déjà. Il manque encore des choses. Après, encore une fois, il n'y a pas tout à jeter parce qu'ils ont mis une bonne pression quand même sur Mahomes en début de match et ça faisait longtemps que cette ligne offensive n'avait pas été autant en difficulté. Justin Herbert, on l'a dit la semaine dernière, mais il le prouve encore cette semaine, je pense qu'il est revenu à 100% ou pas très loin. Donc voilà, il y a vraiment des espoirs du côté des Chargers. Comme je l'ai dit, s'ils font ce match-là contre d'autres équipes, beaucoup plus de souvent que l'inverse, ça va finir en victoire. Le problème, c'est qu'ils ont les Chiefs dans la division, qu'ils les jouent deux fois et que c'est un peu des épouvantes.
Ouais, bien sûr, ça reste évidemment une bonne équipe, hein. Tu le disais, Herbert est à 280 yards, il trouve... Alors il y a Keenan Allen qui est de retour, qui se montre avec 94 yards, il y a Mike Williams qui était revenu mais qui se reblesse, Joshua Palmer continue quand même d'être au niveau, il y a quand même 115 yards au sol, il y a des choses. Après, c'est ce que je disais, je pinaille et je dis qu'il manque un peu de dureté dans les tranchées sur ce match, parce que oui, pour aller au bout contre Kansas City, malheureusement, quand ils ont la tête sous l'eau, il faut continuer jusqu'au coup de sifflet final, quoi.
C'est ça, donc, c'est même quand il reste 12 secondes. Hein.
C'est ça, il faut vraiment, tu peux jamais t'arrêter, quoi. Les Chiefs qui sont donc désormais devant en AFC West et loin devant, ils sont même seuls en tête de l'AFC en général, puisque les Bills ont lâché quelques matchs. C'est clairement l'équipe à abattre maintenant, Kansas City, j'ai l'impression. Autant c'était les Bills, tu vois, sur les quelques premières semaines de la saison, autant là, ça semble être les Chiefs. Hein.
Ouais, ils ont mis un tout petit peu de temps à démarrer. On s'est dit, Tyreek, il est parti, ça va être un petit peu compliqué. Et puis il a fallu un petit peu d'acclimatation. Et puis c'est reparti, et en effet, on le voit, c'est une équipe qui c'est l'équipe la plus régulière de la ligue. Les Bills, peut-être que sur un match, ont un plafond, on va dire, pour emprunter un terme américain, un peu plus haut peut-être, mais en termes de régularité très haute, les Chiefs sont injouables. Ils sont capables de sortir ces performances-là semaine après semaine, et on le voit notamment quand on regarde Buffalo, que c'est difficile en NFL de sortir des performances comme celle-ci toutes les semaines, et du coup, ce qui rend les performances et puis surtout la carrière pour l'instant de Patrick Mahomes aussi incroyable.
Les Bills qui sont peut-être un peu plus irréguliers justement depuis qu'ils ont battu les Chiefs il y a quelques semaines, et alors que les Chiefs, eux, depuis qu'ils ont perdu contre les Bills, ils ont battu les Niners, les Titans, les Jaguars et les Chargers. Parce que quand même.
Oui, parce qu'ils jouent pas une équipe que des Bills toutes les semaines, mais par contre eux, ils ont quasiment le même niveau très haut toutes les semaines, donc forcément ça va battre des équipes, et puis ça va arriver certainement, tu l'as dit, en playoff, ça c'est sûr, en playoff avec le plein de confiance aussi, peut-être même avec une semaine de repos, on anticipe beaucoup, mais c'est bien parti.
Ouais, parce que le calendrier s'adoucit en plus derrière. Les Rams sont très très mal en point et ils les affrontent là la semaine prochaine. Derrière les Bengals, ce sera un peu plus costaud, mais Broncos, Texans, Seahawks, Broncos, Raiders pour finir.
Oui, ça peut aller tout droit vers la semaine de repos.
Ça semble plutôt pas mal dans leur corde. Voilà pour ce débrief des trois principales affiches de la semaine 11. On se retrouve demain, évidemment, pour le débrief de tous les autres matchs. Ce sera avec Victor Roulier et Raphaël Masmejean. Tu vois, on parlait de créneau désigné. Victor, il s'invite sur le mardi cette semaine, il a un petit moment. Donc voilà pour ces trois matchs. Merci beaucoup, Lucas.
Merci, soyez pas trop dur avec mes Patriots demain, les amis, s'il vous plaît.
Ça marche. On en parlera en ouverture, petit teasing. Ce sera le premier match dont on va parler. Et en effet, c'est pas avec les Patriots qu'on va être le plus dur. J'ai déjà préparé mes notes, j'ai déjà préparé le titre de l'émission, j'ai déjà préparé les visuels.
C'est incroyable. Même moi, tu me teases parce que je ne sais pas. Même moi, je suis teasé. Ouais. J'ai hâte à être demain.
C'est pas avec les Patriots qu'on sera le plus dur. C'est la fin de l'épisode 543. Merci encore, Lucas. Vous nous retrouvez sur tdactu.com pour tous les liens, pour les réseaux sociaux, pour les liens pour le podcast. Évidemment, vous avez un article avec tous les liens si vous ne trouvez pas pour Apple Podcast, pour Spotify, pour Deezer, pour Podcast Addict. Enfin, on est sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site. S'il vous manque un lien, il y a un article podcast tous les jours avec tous les liens qui sont rappelés. On se dit donc à demain pour le débrief complet de la semaine 11. Encore une belle semaine de NFL sur Touchdown Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.